Bien, écoutez, j'espère que ma voix va me permettre de parler. Oui.
Le micro marche très bien.
J'ai dit, il n'y a pas de raison, mais la tête pitrompée la savane. Vous arrivez à entendre, oui. Alors, je vous ai demandé de préparer Bémidbar et Schmout. On vous a distribué aussi le livre de Schmout.
Oui, Schmout et Bémidbar.
Bémidbar, très bien. Il y en a encore là, si vous voulez voir. Non, je l'ai dit. Bon, je vais attendre que ça s'arrange. Est-ce que vous avez besoin d'un ventilateur?
Je peux récupérer le livre.
Je vais le chercher. C'est pas grave, chaque fois que je change d'atmosphère, j'ai la petite cœur. Je vais vous expliquer brièvement ce que vous étudiez. Nous allons commencer par là. Un passage de la paracha de Malchut, qui n'est pas au début. Je vais vous donner tout de suite les références. C'est au chapitre 30, donc, mais... Non, au chapitre 31, au début. Ensuite, s'il reste du temps, ce que j'espère, on reprendra le début de la paracha. Et on étudiera essentiellement le sujet suivant, qui me semble, qui est un sujet classique mais très important. Il y aura le cas particulier d'une mitzvah que Moïse transmet directement au chef de tribu. C'est d'ailleurs le mot de tribu qui a donné ce titre à la paracha. Et c'est un mot. Ce n'est pas le mot de chevet, que vous pourriez vous dire attribut du point de vue ethnique. Mais le mot de maté, c'est le bâton de commandement du chef de la tribu. Et d'ailleurs, dans l'hébreu moderne, maté signifie l'état-major, comme vous savez. Et depuis donc les temps les plus antiques, il y avait ce signe de la souveraineté militaire et politique et civile, le bâton de commandement. Bien, je crois que c'est resté surtout dans le bâton de maréchal. Et il y a deux personnages contemporains qui aimaient beaucoup ces bâtons. C'était Mobutu du Congo, vous savez. Et puis, je ne sais pas de Romani comment il s'appelait. Oui, c'était un clown du bâton. Je ne sais pas si vous savez. C'est... Voilà. Et alors là, nous avons le cas particulier du mitzvah, où la Torah spécifie que Moïse a transmis le commandement, la mitzvah, pour racheter à Matot, au chef des tribus. Si j'ai le temps tout à l'heure, j'espère que j'approfondirai un petit peu ce problème. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah en particulier qui explique pourquoi la transmission de la Torah n'est pas indiquée de la manière classique dont cela se faisait habituellement, basiquement, d'ailleurs, nous aurons peut-être le temps de le lire dans Rachid, habituellement, Moïse enseigne d'abord à Aaron tout seul. Ensuite venaient les fils d'Aaron, et Moïse enseignait aux fils d'Aaron en présence d'Aaron. Ce qui fait qu'Aaron avait entendu déjà deux fois l'enseignement, mais une fois à son niveau à lui, et une fois au niveau de ses fils. De telle sorte qu'Aaron était aussi initié à la manière dont il faut parler, à un degré inférieur de la hiérarchie. Et ensuite, Moïse convoquait les chefs de tribu, il avait un troisième nombre de degrés, et Aaron avait assisté déjà à son propre enseignement celui de ses fils et aussi à la manière dont Moïse transmettait au chef des tribus et ensuite tout le peuple. Et effectivement, il y a là une pédagogie que je voulais signaler et qui est très importante. C'est comme ça pour toutes les mitzvot d'après le jeu des versets, des références des versets qui parlent de cette transmission de mitzvot de la Torah par Moïse. Et c'est mis sous la rubrique de que Moïse, comme les autres prophètes, avait le niveau de prophétie qui s'appelle Ko-Amar. Je ne sais pas la peine que je me lève pour écrire au tableau Ko-Kafé, ainsi Amar a dit Dieu. Voilà comment Dieu m'a parlé, mais pas dans la forme dans le sens et dans la transmission pédagogiquement va tenir compte du niveau de celui à qui on transmet. C'est le contenu est absolument ce que Moïse a à dire, mais la manière dont il va le dire dépend de l'interlocuteur. Est-ce que c'est bien clair? Ne vous trompez pas, pas l'inverse, quand même. C'est-à-dire, c'est du côté du Mekabel, de celui qui reçoit le message, que la forme change. Mais du côté du Mashpia, de celui qui donne le message, c'est toujours le même message. Est-ce que c'est bien clair? Ça se rattache à quelque chose que nous avons étudié déjà, que l'expression hébraïque traditionnelle, c'est de bouche à bouche et non pas de bouche à oreille. Parce que l'oreille n'entend pas forcément ce que la bouche a dit. Et pour répéter scrupuleusement, il faut répéter ce que la bouche a dit. Il faut que la bouche répète ce que la bouche du maître a dit. Si c'est ce que l'oreille de l'élève a entendu, c'est déjà autre chose. Vous vous rappelez comment étudier ça? Alors, ça c'est le degré de prophétie de Kohamar. Ainsi, Dieu a parlé. Ainsi, Kohamar. Mais Moïse a un cas particulier, et c'est le cas dans cette Mishnah, qu'il a un niveau de prophétie qui s'appelle Zehadava. Zehadava, voici la chose même qu'il a dite. Et là, c'est strictement dans la forme et le fond. Et si on a le temps, on étudiera ça, et je vous donnerai un exemple très important de comparaison de la même Mishnah, où Moïse revient sur la même Mishnah, en précisant, en disant Zehadava. Voici la chose que Dieu avait dit, parce qu'entre-temps, ça avait été mal compris, ce qu'il avait transmis. Pas mal compris. Il y a un changement de stratégie, parce que, entre-temps, il y a eu la faute du vautour. Et il s'agissait de la fonction d'Israël de recevoir les offrandes pour construire le temple. Et alors, les offrandes étaient reçues, d'après la première forme de la mitzvah qui est donnée dans la paracha de Trouma, de quiconque apportait l'offrande. Fut-il d'Israël, fut-il de pas Israël. Et ces offrandes-là, ils sont-ils au dehors? Alors, Moïse revient dans la paracha de à la fin de Shemot, rappelez-moi et moi. L'avant-dernière paracha de Shemot, c'est laquelle? Rekel. Ma bibliothèque, la située, n'est pas là. Je la remplace. Et alors, Moïse revient sur cette mise-là en disant Zéadabar. Alors que la première fois, c'est Mikolishachir est devenu niveau. Je vous donnerai cet exemple plus en détail tout à l'heure. C'est important de voir la différence de la transmission de la prophétie par Kohama. Et là, tous les prophètes prophétisent par Kohama, Moïse aussi, mais à un niveau propre à Moïse, Zéadava. Voici la chose elle-même. Bien entendu, toutes ces nuances-là, qui sont plus que des nuances, doivent être perçues en hébreu directement. Et alors, il s'agit de la mitzvah de ce qu'on appelle Ahatara Nedarim. Dans quel cas on peut annuler un vœu? Alors, tout problème là, c'est le problème de l'importance de la parole. Et c'est important de voir que précisément la forme même de la transmission en tient compte. Kohamar ainsi a dit, ou bien voici la chose qu'il a dite à propos du mitzvah qui concerne l'importance de la parole. Ben, j'espère avoir le temps d'y arriver. On étudiera le texte d'ailleurs là-dessus. Sinon, je voulais en tout cas vous signaler quel est le sujet important. Pourquoi cette mitzvah-là est confiée au chef des tribus? Alors, nous allons commencer par le premier sujet que je voudrais aborder avec vous. Et c'est l'ordre que reçoit Moïse de venger Israël de ce que Midian avait fait avant de mourir. La dernière chose que Moïse aura à faire avant de quitter la scène de l'histoire terrestre, si j'ose dire, bien sûr il est mort dans le sens qu'il ne vit plus de la vie terrestre. J'hésite à formuler tout ça en français, parce que je ne veux pas penser à autre chose. Mais Moïse est un des trois personnages du récit biblique, duquel il est dit, qui ne sont pas morts. Mais qu'ils ont changé de monde vivant, de ce monde-ci. Au monde à venir, tout le monde doit passer par la porte de la mort. Sauf trois personnages qui ont été, qui se rappellent, avant le déluge. Vous m'avez dit Enoch, c'est faux. Ça vient des traductions. C'est Hanor.
Hanor,
Yaakov.
Et le deuxième?
Jacob.
Ça, c'est dans le Midrash. Jacob, c'est dans le Midrash. Non, c'est le deuxième. Le premier, c'est Hanor. Le deuxième, qu'a dit Moshe? C'est juste. Tu as droit à un bonbon sucré. Si je voulais dire dans notre logique, le troisième, c'est les prophètes. Ils sont montés, on dira ça en français, ils sont montés vivants au ciel. Enfin, ils ont passé de ce monde-ci au monde à venir, vivants. C'est un sujet pour lui-même. Pourquoi ces trois? Qu'est-ce qu'il y a de caractéristique commune avec les trois? Un jour, peut-être, si vous voulez, on étudiera. Peut-être, s'il nous reste du temps tout à l'heure, vers minuit et demi, on verra ça. Eh bien, on va d'abord lire quelques versets. Et j'étudierai deux poèmes de ce passage. Comment comprendre que ça va prendre du temps d'ailleurs. Comment comprendre la forme même de ce deuxième verset. Prenez chapitre 31, verset 2. Le premier verset, c'est « Vaïda d'arraché, mais moi chez les morts. » Donc, c'est un problème, j'ai connu une autre. Alors, Dieu s'adresse à Moïse pour lui dire « Nekom nikma bene Israël, mais la Midianie, venge la vengeance des fils d'Israël, des enfants d'Israël, de la part des Midianim. » Les Midianim, c'est le peuple de Midian. Ça nous renvoie à la parasha de Pinchas et la parasha de Balak, que je vous ai un peu négligé puisqu'on a étudié un texte de lui dans la place. Et voilà de quoi il s'agit, parce que Balak avait obtenu de Bilham, le prophète des nations, de maudire Israël, mais que la malédiction a été transformée en bénédiction. Balak n'est pas satisfait, et il obtient quand même de Bilham un conseil pour vaincre Israël. Il faut le dénaturer spirituellement. Le conseil, c'est d'envoyer du fils de Midian, j'ai oublié comment ça se disait à l'armée, comment on appelait ça à l'armée, les Madelon, oui, ça m'échappe. Toi, tu te rappelles.
J'ai fait l'armée.
Et alors, habiller de leur blouse à tour, pour séduire les fils d'Israël, et il y a une catastrophe, une magéfa, 24 000 en son nom de cette catastrophe, c'est Pinchas qui intervient pour arrêter cette catastrophe. Et alors, il y a un contentieux avec Midian qu'il faut régler avant que Moïse, et c'est assez énorme ce que je veux dire, ait le droit de quitter ce monde. Pourquoi? Voilà, c'est ça qu'on va étudier. Un des premiers points, Neko Nikma Beni Israël met la Midianim, aha, après seulement, Tera Sefer Amecha. Tera Sefer Amecha, c'est une expression pour dire tu mourras. Mais c'est une expression qu'il faut comprendre littéralement. Je vais vous citer un enseignement important de Rabbi Chaim Zato, un grand kabbaliste d'Italie, qui, en analysant les différents termes dont la Bible se sert pour dire la mort, va établir que tout le texte de la Bible, déjà au niveau de la Torah, connaît la survie dans le monde à venir. Ça se rattache à une grande polémique avec les théologiens chrétiens qui prétendent que c'est une invention, c'est un mot méchant, que c'est une innovation du christianisme de parler du monde à venir, qu'ils appellent l'au-delà d'ailleurs, et qu'il n'y a pas de trace du monde à venir dans l'Ancien Testament comme ils disent. Et alors, on va analyser différentes expressions pour dire mourir. Par exemple, c'est employé à propos d'Abraham, la première fois, Vaïgva, Vaïamot, Vaïasef et Ramav. Alors, Vaïgva, il faut traduire d'expira, Gvia. Gvoa, c'est le fait de rendre le dernier souffle, expirer. C'est quand l'âme et le corps se séparent. Ça, c'est la Gvia. Vaïamot, c'est quand il n'y a plus de vie biologique dans le corps. Et alors, j'ai pas tranché sur le fait de savoir si l'âme se sépare un peu avant qu'elle arrive du biologique. C'est un autre problème, très, très, très complexe. C'est étudié dans la Talmud. À quel moment on peut diagnostiquer en termes modernes ce qu'on pourrait appeler la mort clinique. C'est de faire autre chose. Et vaïra, ça veut dire expirer. Vaïamot, c'est quand la séparation de l'âme et du corps a pour résultat la mort du corps. C'est le corps qui est mort. Alors c'est la personne qui a expiré, c'est le nefesh qui expire, le corps est mort, le cadavre du corps mort, c'est Gevia, rien à voir avec Gevia, Gevia. Et puis, Vaya Sefer Amar, il a été ajouté à son peuple. Et alors, le Ramchal, Rabbi Chaim Mouzato, explique que cette expression, elle a été ajoutée à son peuple, ça signifie le fait que cette personne qui avait vécu sa vie terrestre est allée rejoindre son peuple là où il se trouve, c'est-à-dire dans le monde à venir. C'est clair ? Mais alors, il y a une forme là, percée par Mecha, et après, tu mourras. Comme beaucoup de commentateurs ont étudié, en particulier le Gilles Zahav, que je vous cite souvent, a indiqué ceci, c'est que grammaticalement, est-ce que c'est lui ou ma bimine ? Non, c'est Gilles Zahav. Que grammaticalement, le mot de Teasef est sauf. Ça veut dire être ajouté à Asefa. Mais ça veut dire aussi être séparé de. C'est le paradoxe de la langue hébraïque. Il faudrait qu'il y ait Teasef Mecha Mecha. Tu quitteras ton peuple qui lui reste en vie. Okay? Mais le fait que c'est exprimé comme ça, Teasef Mecha Mecha, c'est pour indiquer que l'essentiel de l'existence, c'est dans le monde à venir. Et qu'ici, c'est une existence provisoire, comme on dit ça, il y a un terme en mathématiques, une projection de l'existence vraie dans les coordonnées de l'espace-temps de son ensemble. Mais, littéralement, ça veut dire, et après, tu seras ajouté à ton peuple. Alors, la question que je poserai, et je vous avoue que j'ai souvent étudié ça, je n'ai pas trouvé de source à ce que je vais essayer d'expliquer, sinon les versets eux-mêmes. Mais je veux dire, je ne vais vous citer aucune autorité qui va donner la forme de l'explication que je voulais étudier avec vous. Pourquoi comprendre simultanément pourquoi c'est la dernière chose que Moïse doit faire, régler ce contentieux avec Midian, et d'autre part, pourquoi c'est sous cette forme, et après tu rejoindras ton peuple. D'autant plus que précisément, c'est rattaché à ce qu'on a vu tout à l'heure, on ne peut pas dire que Moïse est mort. Puisque, mais bien que c'est écrit, il est mort de la mort terrestre, mais c'est vivant qu'il est rentré dans le monde à venir. Et d'autre part, le terme qu'il aurait fallu employer, c'est le terme de Vaïkvar. Ça nous aura étudié à propos de Abraham et d'Ishmaël, que Rachid cite, le Talmud qui dit on emploie cette expression que pour les justes, que pour les tzadikim, parce que les tzadikim vivent toute la quantité de vie qu'il aurait, je vais dire, prêté, mais ça c'est l'expression qui parle comme ça, qu'il aurait donné dans ce monde-ci. J'ai compris pourquoi, j'ai pas dû prêter. Qu'il aurait donné dans ce monde. Et donc, quand il est chamache, il n'a pas de vie. Il n'a pas prêté, il est donné. Et je crois que ça sera dû par expirer. Les tzadikim vivent jusqu'au dernier instant, et c'est pourquoi il meurt dans un instant. Il s'appelle Mitabichika, la mort dans un baiser. Et le modèle parfait de cela, ça dit que c'est Moïse, qui a vécu à la seconde près 120 ans. Il est mort le jour de sa naissance, 120 ans après. Bon, il y a énormément d'enseignements à ce sujet. En particulier, c'est certainement une des origines du souhait Admer Vesri, jusqu'à 120 ans. Et en général, on a deux réponses. Quand on a ce souhait, deux réactions. Pourquoi tu m'en veux tant que ça? Ou la deuxième, c'est tout. Ouais, quoi qu'il en soit. Il faut comprendre la forme. Alors, je vais aller très rapidement et en lucidant, sans voir les détails des références pour ne pas prendre trop de temps. Il y a un problème entre Moïse et Midian. Et on va essayer de comprendre pourquoi je vais prendre cet aspect du problème, cette dimension-là, précisément. Pourquoi c'est Moïse lui-même qui doit, si j'ose dire, couper ce cordon ombilical qui risque d'attacher Midian à Israël, précisément à travers Moïse. En particulier, je voulais que vous preniez à la fin de la parasha de Balak, je vous donne tout de suite cette référence-là en main. Vous allez prendre le verset 6 du chapitre 25. On apprend dans cet épisode des femmes midianites qu'un chef de tribu, un chef de tribu, si vous vous souvenez, il s'appelait Meshe Maïch, en anglais, Cosby Batsour. Non, c'est Meshe Maïch. Zimri Netzer. Au début, dans pas leur nom, mais dans le début de Pinfas, on a donné leur nom, un chef d'Israël, au vu et au su de Moïse et de tous les autres dignitaires d'Israël, a pris une Midianite et débauché avec elle. On lit le verset. Veine Ish Mibne Israël, et voici un homme des enfants d'Israël. Ish est toujours une personnalité, et dans ce cas, je ne sais pas si c'est David, c'est le cas. Va, est venu, va, lisez-moi le mot, va effet. Et il approcha de ses frères et de la Midianite, et elle est mangée aux yeux de Moïse, l'a elle est de Israël, et aux yeux de toute l'assemblée d'Israël. Et il pleurait, Moïse et les chefs de l'assemblée pleuraient devant la tente d'assignation, devant le Mishkan. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on apporte le ventilateur? J'ai l'impression que ce serait mieux. Ou bien, je sens que vous avez chaud. Oui, de la chambre. Ah, il y a un cours là-bas. Bon, ça ne rien. Si vous supportez, c'est ça. Bon. Oui, ouvrez ça, ça va peut-être courant d'air. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et eux, ils pleuraient. Bon. Voilà, Moïse était impuissant à intervenir. D'où le grand mérite de Pinchas qui va intervenir, lui, parce que précisément Moïse avait épousé une Midianite. Donc il faut voir les choses à la racine. Il y a un contentieux entre Israël et Midian qui passe par Moïse depuis l'origine de notre histoire, de cette génération du désert, puisque Tzipora, la fille de Jethro, est Midianite. Et donc il était Nogéa Badabar, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire, hein? Oui, jugé parti, si je vous dis. Impuissant à intervenir, n'importe qui aurait pu dire, mais toi. Et donc, c'est l'initiative de Pinchas qui a arrêté cette magie. Alors, donc, il faut se référer à ce que raconte le début du livre de Shmot, c'est dans le chapitre 2, du lien entre Moïse et Midian. Voilà, je laisse ça tout de suite rapidement. Et je vous donne la référence, c'est. Chapitre 2, dans chez moi. Un modèle de la vocation messianique de la diaspora, de l'identité juive de la diaspora, qui commence avec Joseph. Joseph, c'est l'hébreu qui se mettent au service de la civilisation égyptienne avec leur perspective de transfigurer la civilisation égyptienne. Il y a dans la messianité des Hébreux ces deux dimensions, Joseph à l'extérieur, et lorsqu'il s'avère que c'est un échec, ça a toujours été un échec, l'aventure de Joseph, elle s'est passée dans toutes les civilisations, et regardez comment la Torah le décrit. Joseph, c'est pas n'importe qui, c'est le fils bien-aimé de Jacob, qui disparaît dans une clandestinité absolue, on ne sait pas ce qu'il est, et finalement, il se dévoile comme étant à la tête de l'Empire du temps. C'est le juif assimilé par excellence. Joseph HaTzadik. Et évidemment, je le décris de cette manière pour boucler la boucle qui sera bouclée par lui. C'est l'hébreu qui prend la vie égyptienne pour se mettre au service de la civilisation égyptienne. Et ce profil d'identité hébraïque ou juif traverse toute notre histoire, jusqu'aux grands hommes de la diaspora, dont le dernier peut-être était Mendes Kantz. Ces hommes qui, je dirais pas malgré eux, quoi que c'est ça qu'il faudrait dire, parce que je pense que ces hommes ont été des génies comme les Anglais ou comme Manasseh, d'Israéliens en Angleterre, qui portaient en eux le génie d'Israël, bien qu'étant totalement assimilés. Donc, en dépit de leur option individuelle, c'est quand même Israël qui travaille dans la civilisation du temps. Parce que ça, c'est Joseph dans sa clandestinité égyptienne. Est-ce que c'est clair? Et voilà que, lorsqu'il s'avère que cette tentative messianique à l'extérieur, et c'est la diaspora, et c'est surtout la diaspora la plus clandestine, la plus assimilée, quand Jacob va rencontrer Joseph à la fin de cette histoire, il va avoir devant lui, il y a un midrash extraordinaire, il va avoir devant lui un égyptien, il va demander, mais qui c'est ça? Ce petit-fils, mais qui c'est cela? Il va expliquer, ils n'ont pas la barbe taillée comme les Hébreux, leur barbe est taillée comme les Égyptiens. Ils ne sont pas reconnus. Et d'ailleurs, Joseph a reconnu ses frères. Un juif, ben c'est traditionnel, ça se diagnostique, mais ses frères ne l'ont pas reconnu, parce qu'il était assimilé à l'égyptienne. C'est inversé. Et ça se passe sans arrêt, dans le même profil. Les juifs assimilés sont obligés de reconnaître les juifs de la tradition comme juifs. Mais les juifs de la tradition ne reconnaissent pas les juifs assimilés comme juifs. C'est le drame de Joseph. Et ce n'est qu'en fin de compte qu'il se dévoile que Joseph était quand même tzaddique. Je ne sais pas si Mendes France était tzaddique dans le sens biblique, mais enfin c'était un grand homme. Et j'ai eu affaire à lui, un rapport avec lui, quand j'étais président des étudiants juifs à Paris. Et c'est un homme d'une très grande stature, mais qui ne se cachait pas de dire qu'il était français et que, bon, il avait une sentimentalité de solidarité avec tout ce qui de près ou de loin ressemble au judaïsme, surtout de loin. Et il s'est marié une voyage, je me comprends bien. Sa femme est juive?
Non.
La première était juive. Bon, j'apprends qu'il en avait deux en plus. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Je pense à un grand homme comme ça, qui s'y guère. Mais c'est un petit bonhomme, ce type, à côté de Mendes France. C'est un sale type, je m'excuse du terme. Et il reçoit c'est la prostitution du prix Nobel, le prix Nobel de la paix. Alors qu'il a fait massacrer des dizaines de millions de Vietnamiens. Et il a le prix Nobel de la paix quand même.
Sans
aucun doute. Il y en a d'autres. Je n'ai pas voulu faire allusion. Je savais que vous allez compléter par vous-même. Eh bien, c'est vraiment scandaleux. Mais bon, il y a eu de cette syndicat. Léon Blum, il me le rappelle. J'étais jeune, mais c'était un grand juif. Mais qui ne veut rien de juif? C'est Joseph déguisé en égyptien. Est-ce que c'est clair? Et alors, les Français, je vais vous dire dans les livres. Les Français le voyaient juif, mais moi je vous garantis que quand je voyais un homme, je voyais un goy, je voyais pas du tout un juif. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand j'étais blessé à la guerre, j'étais à l'hôpital, et puis alors il y avait un curé aumônier qui venait visiter les blessés, et alors je crois que c'était un jésuite d'ailleurs, peu importe. Alors il apportait des bonbons, et puis il était gentil. Il nous demandait, alors. Et voilà, tout de suite, je dis, je suis juif, ça fait rien. Et comment tu t'appelles? Je dis Léon. Et il me dit, ah, comme Blum. J'ai dit, non, comme Bazaine. Vous savez qui c'était, Léon Bazaine, un grand traître français. Je vous rappelle. Il est devenu blanc, il est parti. Ça m'était sorti comme ça. Mais pour les Français, c'était évidemment un juif. Alors pour les Juifs, c'était évidemment un goy. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors c'est pour voir. Cette histoire qui commence à Joseph, qui s'achève à Moïse. Et vous voyez, c'est le profil d'identité de Joseph, mais inversé. C'est le juif sur le trône du pharaon qui découvre le pays égyptien et qui rejoint les épouses. Ça, c'est Moïse. Donc, c'est l'histoire du juif de diaspora. Évidemment, si on avait le temps, on verrait que ce qui s'est passé de notre temps, le retour de beaucoup de juifs de diaspora au judaïsme, toujours resté marginaux d'ailleurs. C'est à cause du choc de ce que Moïse a vu, l'Égyptien persécutant les Juifs. Et beaucoup de juifs contemporains, après la Shoah, ont rejoint l'identité juive, encore une fois tout en restant marginaux. Pas du tout pour un amour du judaïsme, mais pour être avec les persécutés et pas avec les persécuteurs. Mais c'est exactement l'histoire du verset qu'on va lire de Moïse. C'est clair? Mais jusque-là, on ne sait pas qui sont les frères de Moïse. Officiellement, c'est les Égyptiens. Alors, prenez le verset 11 du chapitre 2 dans Shemot. Vaï, Vaïami, Maël, elle arriva en ces temps-là. Vaïdal Moshe, Moïse grandit, Vaïeté et Ram. Il sortit vers ses frères. Le lecteur juif est sûr qu'il a lu, il alla vers les Hébreux, ses frères. Mais il a écrit, sortit vers ses frères, lesquels? Vous comprenez l'ambiguïté de l'Orient. Je suis persuadé que si on demandait à Léon Blum ou à Ernest France, qui sont des frères, ils auraient le même problème. Ils pourraient répondre à 100% les Français, ils pourraient répondre à 100% les Juifs. Alors ça n'a rien à voir. Je sais bien qu'il y a des Juifs qui se prennent pour des Français. Je ne connais pas beaucoup de Français qui se prennent pour des Juifs. Mais vous voyez le drame de cette identité diasporique. Il sortit vers ses frères, et on ne sait pas qui sont ses frères. Bayar Bessivotam, et il vit leur charge, leur fardeau, leur ouvrage. Des deux, il y a la tâche. Dans un camp de concentration, enfin, je vais à la limite, il y a la tâche des esclaves et la tâche des maîtres. Les deux ont un rôle dans l'histoire du monde, les maîtres et les esclaves. En langage marxiste, comment ça s'appelle? Bon, les uns et les autres. Il y a toujours, dès qu'il y a une société, hein? Dès qu'il y a une société, il y a les maîtres et les esclaves en langage public. Et les deux ont un sévère, ont une tâche à accomplir. On est jugé d'après la tâche qu'on a accomplie. Et Vaya Rishmitri est vu un homme égyptien, marqué chez Evry, frappa un homme hébreu, Mehav, de ses frères. C'est la fin du verset qu'on sait que Moïse a choisi que c'est les Hébreux, ses frères, parce qu'il a vu l'Égyptien frapper les mains. C'est très condensé comme verset. L'analyse, c'est cela. Ce n'est pas du tout pour des raisons de civilisation que Moïse a préféré les Hébreux aux Égyptiens, c'est pour des raisons morales. Parce qu'au niveau civilisation, ils sont complices de la même civilisation, l'Empire égyptien. N'est qu'à voir, par exemple, un juif français de diaspora classique est inséré dans le circuit de la cité française. Il paye ses impôts, j'allais dire à Mitterrand, maintenant c'est Chirac. Il paye ses impôts à Chirac. Son passeport est français. Il est inséré dans la diaspora comme les Hébreux étaient insérés dans l'Empire égyptien. L'Empire égyptien étant totalitaire, les choses sont claires. L'étoile jaune, c'est les Hébreux. Et l'étoile rouge, c'est les marxistes, bon, peu importe. Mais vous voyez à peu près quel est le problème. Et c'est pour des raisons morales que Moïse a choisi. Le verset est très clair. Ish Mitzri marqué Ish Ivri Mer. Comment dire? Pour quelqu'un qui verrait de loin, et tu sais que je lis énormément de travaux des politologues, des sociologues contemporains, qui n'arrivent pas à se sortir de ce mystère, comment décrire un juif? Les autres, on le reconnaissent, du voisin, quel qu'il soit. Si le voisin est arabe, quand on parle des Jordaniens, ou si le voisin est chrétien, quand on parle des juifs de diaspora. Comment, c'est un mystère. Comment arriver? Quel est le critère qui fait que là, un juif ne vient pas? Tous les critères proposés sont faux. Parce que si on veut définir un juif par la Torah elle-même dit qu'un juif sans Torah, c'est un juif. On est coincé tout de suite. On définit un juif par la terre d'Israël, et alors il y a tous les autres qui sont dehors, qui sont passés. On définit un juif par le peuple. Ils sont citoyens français, mais ils sont juifs. Tous les critères sont faux. C'est un mystère. Comment arriver à cerner cette identité? Et alors, un observateur de Sirius, je vous garantis qu'il va y avoir la différence entre un falafel israélien et un falafel libanais, et entre un arabe juif et un arabe chrétien. Un arabe libanais, d'ailleurs, il paraît que c'est le meilleur. Et même, je vais même plus loin. Quelle différence entre l'arak israélien et le raki turc? Et le raki, c'est les Turcs.
Grec.
Grec. Et chez les Turcs, c'est France.
Raki
aussi. Raki aussi. Ouzo. Ouzo. Ouzo, c'est pas je m'en souviens. Je raconte une histoire marocaine de Ouzo, dont vous savez connaître. L'arabe et l'hébreu. C'est un juif dont la femme s'appelait Ouzo. C'est un nom de femme marocaine très connu. Un Shabbat, ils sont discutés. Il a pris sa tafina, que les Marocains appellent Srina. Il a cité avec l'âme, je carrière. Il a dit Srina, trop de bonnes. Ça, c'est l'histoire marocaine, tiens. Il faut être marocain pour sentir ça. Mais c'est joli, Srina, trop de bonnes. En tout cas, c'est ça pour le coup de bonnes. Je reviens au sujet. Voilà ce qui se passe dans ce verset. Et c'est une situation contemporaine que nous avons vécue. Nous avons en particulier tous les penseurs qu'on appelle les nouveaux philosophes. En France, c'est pratiquement tous des juifs qui ont été déçus de la civilisation goïe et qui se réclament des valeurs juives, mais du dehors de la communauté, du dehors d'Israël. Il y en a un seul qui est un peu sympathique là-dedans, et j'ai oublié son nom. Il y en a un qui est sympathique. Oui. Donne-moi tes noms.
Bernard-Henri Lévy.
Non. Lui, il est un peu sympathique. Mais les autres, c'est des imposteurs, en fait. Bernard-Henri Lévy, je vous raconte. C'est des hommes de valeur, tous. Mais ils sont restés coincés sur un demi-chemin brisé. J'ai participé un soir à Rachi, à une grande table ronde, il y avait Bernard-Henri Lévy à côté de moi. Et un brio, vous savez, brillant, comme c'est pas possible. Et alors, ça faisait la queue à mon bureau après, toutes les jeunes filles qui me demandaient son adresse. En me demandant spécialement que je les recommande. alors ici, déjà, j'ai mis, au bout de la troisième fois, je lui ai fait passer un petit papier. Est-ce que vous voulez que vous me la plus cité, une Bible inventée complètement, mais avec une telle assurance, comme Jérémie dit, puis ça ressemble à une parole biblique, c'est le pastiche de la Bible, ça existe. Alors, à la fin, je dis, mais enfin, on ne travaille pas comme ça, surtout pas ici, à Rachid. Ah, mais non, mais j'ai entendu Lévinas dire ça, Lévinas, il veut dire ce qu'il veut, mais si Jérémie ouvre le livre, il n'y a plus de Bernard et Lévinas qu'on ouvre le livre. Je ne sais pas si vous rendez compte. Et il n'est pas seul à faire ça. Des citations approximatives qui sont fausses. Bon, je referme ma parenthèse. Seulement, je vous signale que dans la calomnie en disant que sa mère n'était pas juive, c'est faux. Sa mère est juive. D'ailleurs, j'ai connu ses parents, c'était des juifs, des bénissards. Une petite bourgade. Il y avait un bénissard, les sardines, les anchois et les parents de Bernard Henri. Bon, tout est possible. Non, en Algérie, tout est possible. Alors voilà le problème. Moïse est déçu pour des raisons d'ordre moral de la société égyptienne. Le lendemain, verset 13, Vayetse Vayom Hashemi, Jeineshnen Hashemi Ivrim Nitzim. Et voici que deux personnes hébreux se querellent. Vayomer Lachacha, Lamantake Verecha. Et il dit au méchant, pourquoi tu frapperais mon prochain? Tout de suite, on entend derrière, ça c'est Moïse en plein. Mais Midrash a posé la question, d'où il sait celui qui est le méchant? Il dit, c'est celui qui avait la main levée. Ça suffit, celui qui avait la main levée, c'est lui le rachat. Et alors, je vais essayer de vous imaginer la scène. Après la Shoah, les nouveaux philosophes assistent à une réunion de consistoire. Alors, à la Shoah, ils sont déçus de la civilisation ambiante. À la réunion du consistoire, vous savez ce qui se passe au consistoire? Ils disputent. Alors, ils voient deux hommes hébreux se disputer. Alors, ni l'un ni l'autre. Moïse s'enfuit. Il est déçu de la société égyptienne et de sa civilisation. Il est déçu de l'état de la communauté juive de son temps. Et voilà. Ensuite, il va recevoir une leçon d'analyse de Dieu lui-même par la suite. Au bout de 40 ans, Jusque-là, il n'y a aucune révélation, mais il s'enfuit, il va chez Jethro, un médium, justement. Et là-bas, au bout de 40 ans, Dieu va se révéler à lui, et pour lui, on va relire le verset tout à l'heure, c'est important de lui dire ce que dit Rachid. Il a dit, non, c'est bien mon peuple que tu vas les sauver. Et c'est ce qu'on dit en citant les versets dans la Torah Pessah. Vayareahu otanu amisrim vayamonu. Et les Égyptiens nous ont fait du mal et nous ont persécutés. Et un midrash, vayareahu otanu amisrim, qu'il faut dire, les Égyptiens nous ont rendus mauvais. Ça veut dire que Dieu explique à Moïse, tu n'as pas compris dans quel état ils sont. Ils sont. C'est mon peuple, dans l'état où il est, qu'il faut que j'aille sauver. Moi, je n'ai pas fermé les yeux, ni les oreilles, dit Dieu, dans ma j'imagine Rachid, à leur situation. Il n'y a pas de doute que les Hébreux des camps de concentration de l'Égypte, eh bien, ça se passait, comme on raconte le Midrash. Et puis, mais c'est la situation dans laquelle la persécution les a mis. Très souvent, nous sommes